Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la place du langage en philosophie. C'est une question qui a hanté Henri Bergson depuis ses débuts à la fin du 19e siècle. Il constate l'impuissance du langage ordinaire pour exprimer les mouvements de la pensée. Toute son œuvre peut se lire en suivant ce fil rouge. Il faut alors trouver d'autres moyens pour parler des réalités philosophiques. Ce langage nouveau prend ses distances avec l'énoncé scientifique pour explorer des registres plus proches du récit littéraire ou poétique. Voilà sans doute pourquoi Bergson est élu à l'Académie française en 1914, puis reçoit le prix Nobel de littérature en 1927. Son projet a souvent été mal compris. Bruno Clément propose de le prendre au sérieux dans son dernier livre, Henri Bergson, prix Nobel de littérature aux éditions Verdier. Nous allons essayer de comprendre ensemble une révolution discrète mais radicale. Elle va même peut-être changer notre façon d'enseigner la philosophie. Bonjour Bruno Clément.
Bonjour et merci de me recevoir dans la maison de Bergson.
Bruno Clément, vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris 8. Vous avez aussi présidé le Collège international de philosophie. Et ce n'est pas un hasard, car vos travaux se situent toujours à l'intersection de ces deux disciplines. Alors, beaucoup de philosophes se sont intéressés au langage. Je pense par exemple à Platon ou encore à Spinoza. En quoi la démarche de Bergson est-elle différente ?
Beaucoup de philosophes se sont intéressés au langage, c'est vrai. Tous, je crois, en réalité. Mais ils s'y sont intéressés comme un objet sur lequel ils pouvaient, comme sur tous les autres objets du monde, tenir un discours. Donc, il est rare de trouver un système philosophique qui ne fasse pas sa place au langage. Il faut bien penser le langage. Mais il est très rare, je ne dis pas que c'est jamais, mais il est quand même très rare que les philosophes incluent dans leur pensée du langage leur propre usage du langage. Vous avez cité Platon, c'est un des rares qui le fait. C'est-à-dire qu'avec la personne de Socrate, il invente un personnage qui est capable à la fois de donner une théorie du langage et à la fois d'en tirer des conclusions sur l'usage qu'on peut en faire en philosophie. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant de noter qu'il y a une tension très forte qui s'instaure dès le début de cette réflexion entre, d'une part, pour Socrate, l'impératif de ne pas écrire, de ne pas laisser de traces écrites, pour des raisons qui sont complexes, mais très, très, évidemment, intelligentes et respectables, mais notamment à cause des commentaires divergents qu'on pourra toujours en tirer en l'absence de la référence à l'auteur, d'un côté, et de l'autre, l'exigence d'écrire, c'est-à-dire qui contrevient aux ordres de Socrate, qui était son maître, que Platon a ressenti dès le début. Et moi, je prétends que dans un très grand nombre de ces dialogues, et plus je pénètre en avant dans cette œuvre, et plus je me rends compte que c'est le cas, dans toutes ces œuvres, il a cette pensée du langage, vraiment. Et de son moyen d'expression.
Avec un tiraillement qui est présent, du coup, chez Platon, et une autre problématique, un autre tiraillement chez Bergson par rapport au langage.
Voilà. Alors, chez Bergson, il est dans cette tradition, c'est-à-dire dans la tradition des gens qui pensent, qui font métier de penser, qui le revendiquent, et qui, loin de mépriser l'exercice de la parole philosophique qu'il révère, et qui est son métier, puisqu'il enseigne aussi, se trouve confronté tout au début, et moi je dis dès les premières lignes de son premier livre, à cette question qu'il concerne directement parce que son affaire, comme chacun sait, son affaire est l'affaire de la durée, c'est l'affaire du temps, c'est-à-dire l'affaire du continu. Et il dit, qu'est-ce qu'on a pour parler de ça ? On a le langage, et le langage, il n'est pas continu, il est discontinu. Il y a des mots qui sont séparés les uns des autres, il y a une syntaxe qui disjoint, même si elle essaye de lier des choses. Il y a des propositions qui sont des propositions qui sont, même quand elles essayent d'être ouvertes, sont fermées grammaticalement, syntaxiquement. Donc on a un outil qui n'est pas adéquat à notre entreprise. Et comme pour lui, l'entreprise par excellence de la philosophie, c'est de ne pas manquer le continu, la continuité, il dit essayons une autre manière. C'est le premier chapitre de mon livre, c'est en d'autres termes, parce que dès le début, dès sa deuxième phrase, il énonce une première phrase, puis aussitôt après, il la glose en disant en d'autres termes, on pourrait dire que. Et cette hésitation, qui me sert de guide pour toute la première partie, ben, en fait, c'est celle qui est à l'origine de son, me semble-t-il, à l'origine épistémologique presque, et poétique de sa démarche. Et je dis les deux mots à la fois, épistémologique et poétique. Ça concerne au plus profond ce qu'il a à dire, qu'il ne peut pas séparer d'une poétique de la philosophie. Comment écrit-on la philosophie ? Et moi, j'ai été frappé en cours d'écriture par la coïncidence que je rappelle très, très rapidement.
Allez-y.
À quelques années de là, à quelques années de ce premier texte, je crois 3 ans après, qu'est-ce qui se passe en poésie ? Mallarmé fait lui aussi une distinction entre deux usages du langage. Un langage qui est celui de la communication, qui est celle de l'enseignement, du journalisme, de l'entretien, le nôtre en ce moment, par exemple. Il appelle ça, sans nuance péjorative du tout, l'universel reportage. Et puis il dit, il y a un langage complètement distinct de ça, qui est celui de la poésie, qu'il entend pas seulement au sens strict de la poésie, mais de tout usage créatif du langage. Et moi, j'ai été frappé de voir qu'en fait, un philosophe comme Bergson, au fond, fait la même distinction. Il dit, le langage de tous les jours, il est très bien. Et d'ailleurs, il en fait très souvent l'éloge et il l'analyse dans le moindre de ses fonctions avec beaucoup de minutie et beaucoup d'admiration aussi pour les résultats qu'il obtient. Mais, dit-il, ce n'est pas ce qui nous convient. Ça convient à la science, qui a une pensée qui est très spatiale, mais qui n'arrive pas à penser le continu. Qui peut penser l'espace, mais qui ne peut pas penser le temps. Et donc, il faut que nous aussi, il ne dit pas nous aussi, mais il le dit presque des fois. Il dit il faut que la philosophie œuvre dans le même sens que l'art. Donc, c'est quand même une sorte de nous aussi. Il faut que nous tirions la leçon de ce que nous observons dans les pratiques des artistes. Et donc, le langage tel qu'il fonctionne, c'est celui que, bien sûr, il va utiliser, mais pas comme on l'utilise d'habitude, d'une autre manière. Voilà.
Est-ce qu'il pourrait être tenté par le silence ou d'une certaine façon même par l'abandon au profit d'autres voies d'expression comme l'art pur ?
Vous savez que Bergson avait une fille, Jeanne Bergson, qui était une grande artiste, plasticienne. Elle était sculptrice, elle était élève de Bourdelle. J'ai l'air de répondre à côté de votre question. Elle était sourde-muette. Et je pense que pour Bergson, ça a été quelque chose de vraiment fort. Je ne dis pas du tout déterminant, mais il a eu très tôt le sentiment qu'il était tout à fait possible de faire de grandes choses dans le silence. Il parle beaucoup de la musique, il parle beaucoup des arts plastiques, de la peinture et des portraits notamment. Il parle aussi de la photographie. C'est intéressant parce qu'à l'époque où il écrit, ce n'est pas quelque chose qui soit encore très développé. Et donc, je pense que la pensée de Jeanne Bergson, c'est-à-dire qui parle sans mots, qui pense et qui exprime sans mots, a été une expérience vraiment forte. Maintenant, ça ne peut pas être une tentation pour un philosophe. Le philosophe, il doit s'exprimer, il doit parler, mais il doit aussi penser son langage et affûter son langage. C'est pourquoi il se tourne comme point de comparaison vers la peinture, la sculpture, la musique. Jusque dans ses derniers textes. Dans le dernier grand livre qu'il a publié, Les deux sources de la morale et de la religion, il y a des pages saisissantes dans lesquelles il recommande comme modèle pour les philosophes la façon de travailler de Beethoven. C'est assez incroyable.
Et cela va à rebours de toute une tradition philosophique qui, elle, prenait plutôt comme modèle les scientifiques.
Bien sûr, bien sûr. Et je pense que cette revendication qui a été perpétuellement celle de Bergson, tout en révérant la science. Premier prix au concours général de mathématiques, et il a longtemps hésité entre une carrière scientifique et une carrière philosophique. Il correspondait avec les plus grands scientifiques, il a écrit un livre entier d'entretien, de discussions avec Einstein, donc c'est quelqu'un qui était plus que frotté de science, mais il avait la volonté de distinguer les domaines. Alors c'est vrai qu'il y a toute une tradition de la philosophie. On peut la faire remonter très loin, mais dans les références vraiment très explicites de Bergson, il y a Aristote et dans sa grande descendance, Kant, hein, qui a dit bon, « Voyons ce que peut la raison et voyons ce qu'elle ne peut pas et occupons-nous de ce qu'elle peut. » Et Bergson dit « Occupons-nous de ce qu'elle ne peut pas aussi. » Parce qu'il n'y a pas que les choses de la raison qui doivent être l'objet de l'investigation et de l'intérêt et de la curiosité philosophique. Donc, le silence n'est pas une tentation, l'art est une tentation, et du coup, et une revendication, et du coup, c'est vrai que sa démarche a parfois, souvent, été mal perçue à cause de ça. Je donne une toute petite anecdote qui est personnelle. Quand j'ai commencé à travailler sur Bergson, j'étais dans un département de littérature à l'Université Paris 8. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup d'étudiants. C'était des étudiants en master. Donc, je suis allé frapper à la porte du département de philosophie, où j'ai beaucoup d'amis. Tous, en fait, sont mes amis dans ce département. Et je leur ai annoncé ma volonté, ma décision de faire un séminaire sur Bergson. « Ah bon, tu vas faire un séminaire sur Bergson ?» Sous-entendu, mais de quoi tu te mêles ?
Chasse gardée.
J'ai dit, ben oui, tu sais, il était prix Nobel de littérature. Silence. J'insiste, mais tu te souviens quand même qu'il a été prix Nobel de littérature. Oui, je sais. Mais tu sais, ça lui a fait beaucoup de tort. Et je pense que c'est vrai. J'en ai parlé à Frédéric Worms un jour, qui est un ami aussi, mais qui est un grand, grand spécialiste de Bergson, et qui m'a confirmé que cette accointance de Bergson avec la littérature, mais les arts en général, aux yeux de beaucoup de philosophes, lui avait fait du tort. Et l'un des premiers, c'est Bertrand Russell, qui est donc un philosophe tout début de la philosophie analytique, qui lui mise tout sur la logique, sur les mathématiques, sur la raison bien sûr, et qui s'en prend assez violemment, mais très intelligemment aussi, à Bergson. Donc effectivement, Bergson, il est en tension, même dans son univers philosophique. Et la conférence qu'il a donnée devant ses pairs en 1911 à Bologne, qui est un des textes vraiment que j'admire le plus, c'est un texte qui est extrêmement radical. Tout à l'heure, vous avez employé ce mot discrètement, hein, cette expression discrètement radicale, je pense qu'elle est vraiment juste. Il était radical, mais sans tapage. Voilà. Il ne voulait pas heurter les gens, mais il y a un certain nombre de ses propositions qui sont assez sidérantes. Par exemple, dans cette conférence, il prend l'exemple de Spinoza. Il faudrait presque que je dise le passage, mais en gros, il dit quelque chose, je ne trahis pas, hein, il dit « Bon, je sais Spinoza ce que c'est, je sais ce qu'on enseigne de Spinoza, la substance, l'attribut, la pensée, l'étendue, mais il dit tout ça, c'est tellement lourd, c'est effrayant, ça fait peur à tout le monde. » Mais il dit la vérité, c'est que Spinoza, c'est pas ça. Bien sûr, ça, c'est ce qu'il a dit, mais Spinoza, c'est tout autre chose. Et il fait un portrait de Spinoza qui est un peu comme le Ariel de la tempête, c'est un personnage angélique, aérien, qui a une certaine fluidité, mobilité, qui est en fait l'idéal de Bergson. Et il fait ce même travail. Alors là, c'est très provocant hein, sur Spinoza. En même temps, c'est très provocant, mais j'ai vu très peu de mes collègues philosophes citer ce passage-là et en tirer les conséquences. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon sentiment, ça remet en cause la toute puissance du concept en philosophie. Or, Bergson a porté des coups quand même assez sévères à la pensée conceptuelle.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui le gêne dans le concept ? Et là, on rejoint peut-être justement ce langage scientifique qui aime les définitions, qui aime les séparations.
Exactement. C'est pour cette raison même qu'il récuse le concept, mais il le récuse dans des termes qui sont vraiment, vraiment forts et sans appel, d'une certaine façon. Il récuse le concept au même titre qu'il récuse la raison raisonnante qui est bonne pour les mathématiques, mais qui ne peut pas être bonne pour la philosophie. Il a une expression qui tient en deux mots à propos des concepts dont je pense on n'aura jamais fini de tirer les conséquences. Il dit « la pensée conceptuelle, elle est nécessairement symbolique ». Si on prend les choses au pied de la lettre et qu'on considère que le concept ne renvoie pas à lui-même mais à quelque chose d'autre, c'est le propre du symbole, j'ai l'air de parler d'un albatros mais je parle du poète, alors j'ai l'air de parler de la substance et de l'étendue mais en fait je parle d'autre chose. Et c'est ce que Bergson devait montrer dans ses cours. Il donne quelques aperçus de temps en temps de sa façon d'enseigner, c'est assez stupéfiant. Et donc c'est ça que j'aimerais bien qu'on retrouve en lisant Bergson, qu'on le relise en se demandant où ça nous mènerait si on prenait ces propositions discrètement radicales au pied de la lettre. Voilà. De lire Spinoza comme si en fait il avait cherché à dire quelque chose, qu'il avait trouvé cet appareil de langage qui est quand même assez particulier, hein, qui est un langage philosophique qu'il a totalement inventé, à base d'axiomes, de définitions, de théorèmes, de démonstrations. Il a forgé cet appareil de langage qui n'appartient qu'à lui. Et en même temps, dit Bergson, ça lui convenait au moment où il l'a fait, mais en fait, il cherchait autre chose que ça. Et il va même jusqu'à dire, ça je crois qu'il y a des philosophes qui non seulement ne voudraient pas le commenter, mais le récuseraient. Il va jusqu'à dire, si Spinoza avait vécu un siècle plus tôt, il n'aurait pas du tout produit la même philosophie. Il aurait produit une philosophie en rapport avec son temps, avec la science de son temps, avec les savants de son temps, et peut-être même qu'il n'aurait pas trouvé cet appareil de langage si insolite. Mais, dit Bergson, on aurait eu Spinoza quand même, parce que sous des tentatives différentes, au fond, le philosophe, il cherche à dire quelque chose qui le remet sans arrêt sur le métier, parce que c'est un peu comme en littérature, il n'atteint jamais son objet. Moi, je rapproche ce qu'il dit explicitement, c'est-à-dire toute sa vie, le philosophe a cherché à dire quelque chose, et comme il n'y arrivait pas, il a toujours recommencé en repartant d'ailleurs et en faisant un autre livre, ce que lui-même a fait Bergson. Et je rapproche ça de ce que dit Proust, qui dit au fond un écrivain, et il donne des exemples, au fond un écrivain dit toujours la même chose, il écrit des romans différents. Un poète écrit des poèmes différents, mais au fond, on sent bien qu'il est en quête vers une chose qu'il ne dira jamais d'une façon explicite. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de découvrir qu'en dehors de Proust, dont on le rapproche souvent, ils étaient cousins. Proust a été le témoin du mariage de Bergson. Donc on les rapproche souvent, et pas du tout, à mon avis, à mauvais escient. Mais en dehors de Proust, donc, j'ai été frappé de voir que cette pensée du recommencement permanent, on cherche toujours la même chose, se trouvait aussi chez un autre auteur dont on ne le rapproche pas souvent, à ma connaissance jamais, de Henry James, le frère de William James, voilà, qui dit quelque chose d'exactement semblable dans une très belle nouvelle qui s'appelle « Le motif dans le tapis » ou des fois on traduit par « l'image dans le tapis ». L'écrivain dit aux critiques qui n'arrivent pas bien à comprendre cette pensée qu'au fond, il y a une unité profonde dans son œuvre, mais que personne ne l'a saisie. Alors le critique lui dit, ben, dites-la, vous. Mais il dit, mais moi, je n'arrête pas de le faire. Je le fais sans arrêt. Mais ça ne tient pas en une formule comme ça. Et c'est en reprenant sans arrêt, son travail d'invention et d'imagination qu'il se rapproche, en réalité, mais sans jamais l'atteindre, de ce qu'il cherche sans le savoir. Et personne dit, en fait, il ne sait pas ce qu'il cherche. Et il dit, si le philosophe n'a pas réussi à le dire, ça aussi, c'est une leçon de modestie pour nous. Il va jusqu'à dire, si le philosophe n'a pas réussi à le dire, c'est pas nous qui allons y arriver. Ça décourage tous les commentaires, non ? C'est quand même très audacieux. Et en même temps, ça ne l'empêchait pas d'enseigner.
Cela signifie qu'une philosophie affranchie du concept, d'une certaine façon, c'est une philosophie qui tâtonne et qui va même tâtonner dans les mots, parce que ça, vous l'expliquez, qu'il utilise certaines stratégie, on pourrait presque dire, du langage, par exemple, reformuler, se corriger, faire des approximations, et qu'une approximation n'est pas un problème, bien au contraire.
Bien au contraire, oui. Approximation, dans l'esprit de Bergson, ça ne veut pas dire à peu près. ça veut dire mouvement d'approche. Voilà. Et il dit finalement une pensée digne d'elle-même, qui ne se renie pas, c'est une pensée qui ne prétend pas coïncider avec son objet, parce que ça, c'est de l'ordre de l'impossible, mais c'est une pensée qui ne cesse de s'approcher, selon une courbe qui serait un peu asymptotique. Donc, il y a dans plusieurs endroits de son œuvre ce que je crois que j'ai appelé un éloge de l'approximation. Il chante les louanges de l'approximation, et vous aviez raison de dire que, en renonçant au concept, il laisse la porte ouverte à quelque chose qui est beaucoup plus difficile, en réalité, à appréhender, mais qui ne laisse pas d'exister, malgré tout, ce qu'il appelle parfois la frange indistincte. Il prend la comparaison d'un noyau dur, qui serait le concept, qui serait cernable par la raison, par les moyens du langage ordinaire, et puis il dit qu'il y a toute une nébuleuse autour, ce qu'il appelle frange indistincte, et il dit que la frange indistincte, ça a bien plus d'importance pour la philosophie que le noyau lui-même. Mais évidemment, pour l'approcher, il faut faire des prouesses. Et on ne peut de toute façon que l'approcher. Alors vous avez parlé, oui, d'un certain nombre de procédés, qui sont des procédés purement verbaux. Ça va jusqu'au jeu de mots. Il fait un éloge, par exemple, des jeux de mots dans les... C'est pareil, c'est assez peu souvent commenté, ça, dans Le Rire, qui est un livre qui n'est pas considéré par les philosophes comme un des livres importants. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. Dans Le Rire, il fait la théorie du jeu de mots et de ses qualités. C'est quand même...
Et quelles sont-elles, ces qualités?
Alors, les qualités du jeu de mots, tel que Bergson l'entend, c'est que ça permet de faire jouer le langage, faire jouer un peu comme, vous savez, quand il y a des boulons et des vis qui ne sont pas très bien serrés, ça joue. Alors, cet espace et ce petit mouvement qu'on arrive à communiquer au langage, on peut le faire par le jeu de mots. Par exemple, moi j'ai été frappé de ça, mais je m'en suis aperçu qu'assez tard. Il y a une page très importante dans La pensée et le mouvement qui récuse la conversation. La conversation que Proust aussi méprisait. Il méprisait Sainte-Beuve, par exemple, les causeries du lundi, la causerie, la conversation, ce que Mallarmé appelle le reportage, l'universel reportage. Et donc, il dit tous les inconvénients, tous les travers, tous les torts, tous les défauts de la conversation. Et au bout d'un certain temps, on comprend qu'il reproche à la conversation, finalement, de ne rien vouloir changer à ce qui existe, ni dans l'ordre du langage, ni dans le reste. Alors que pour lui, la philosophie, c'est le contraire de ça. Et donc, à la fin de sa démonstration, il prononce le mot « conservation » et il dit finalement « conversation », ce n'est pas très différent de « conservation ». Évidemment, d'un point de vue étymologique, ça n'a rien à voir, mais du point de vue de l'oreille, c'est quelque chose qui, évidemment, parle immédiatement et c'est un des moments où il fait un peu, il peut, grâce à ça, faire bouger un petit peu le langage et les représentations qui en viennent. Son obsession, c'est ça. Ne pas produire une pensée qui reproduit les schémas du langage. C'est-à-dire, en fait, une pensée qui crée, qui invente.
Et justement, il y a une sorte de réhabilitation de l'imaginaire, de l'imagination en philosophie avec Bergson.
Ça, c'est pas le moindre paradoxe. C'est pareil, c'est comme pour ce qu'on disait pour le langage tout au début. Tous les philosophes ont donné un statut à l'imagination. On ne peut pas faire une théorie de la connaissance sans faire des catégories. Qu'est-ce que c'est que la raison? Qu'est-ce que c'est que l'imagination? Qu'est-ce que c'est que l'imagination active? Qu'est-ce que c'est que l'imagination passive? Donc tous les grands systèmes philosophiques ont dit leurs mots, de Platon jusqu'à Heidegger, et ça continue, on dit quelque chose sur l'imagination. Mais il en est très peu, je dis très peu, je serais peut-être en difficulté si je devais dire qui a contrevenu. Il y en a très peu qui ont accepté de reconnaître que l'imagination pouvait avoir sa part dans l'invention, dans la production du discours philosophique, que le discours philosophique pouvait devoir quelque chose à l'imagination. Et quand certains philosophes l'évoquent, Malebranche par exemple, c'est lui à qui on attribue, c'est sans doute pas vrai, mais ça ne contrevient pas à son esprit, c'est à lui à qui on attribue la formule « la folle du logis pour l'imagination ». Donc Malebranche, il dit, il y a des tas de philosophes, qui déclarent qu'ils font œuvre de philosophe, mais en fait, c'est des imaginatifs. Ils doivent tout à l'imagination. Et pour lui, c'est une manière de les discréditer. Voilà. Alors Bergson fait tout le contraire. C'est dans le dernier texte qu'il est publié, pas qu'il est publié, mais disons, c'est dans son dernier grand livre. Il a publié ensuite un recueil de textes, mais qui avait déjà été publié auparavant. Dans Les Deux Sources, donc en 1932, il fait une sorte d'anthropologie de l'imagination. Il essaye de donner à l'imagination un statut qui explique l'apparition des religions, de la philosophie, de la littérature, des arts. Et très clairement, il dit que la philosophie est née de cette fonction à laquelle, je pense, il est le premier à avoir donné ce nom, la fonction fabulatrice, c'est-à-dire la faculté qu'ont les hommes d'inventer des histoires. Si la philosophie vient de là, aïe, 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 où est-ce qu'on va ? S'il est vrai que la fonction fabulatrice à la fois produit les romans, les pièces de théâtre, la musique et la philosophie, alors comment on va les distinguer ? Ça devient difficile. Pas impossible, mais quand même difficile. Ce qui me fait dire, c'est une formule qui a déjà fait beaucoup jaser, ce qui me fait dire que la littérature, au fond, si on en croit Bergson, son travail sur le langage, sur l'imagination, sur la musique, sa revendication de l'art, etc., que finalement, la philosophie, c'est aussi un genre littéraire. Et là, moi, je suis content qu'on puisse dire, mais il a eu le prix Nobel de littérature. Ça ne veut pas dire qu'il écrit bien. Tous les gens qui écrivent bien n'ont pas le prix Nobel de littérature. Ça veut dire qu'il a une pensée de la langue et de la création qui est de l'ordre de celle qu'ont les plus grands écrivains, les plus grands créateurs. Donc, je risque cette formule qui dit finalement, la philosophie, c'est un genre littéraire. Pas un genre littéraire comme un autre, parce qu'il a sa spécificité, mais c'est un genre littéraire parmi d'autres. Il y a la poésie, il y a le théâtre, il y a même certains essais, il y a de la littérature critique, et il y a des chefs-d'œuvre de littérature critique. L'idiot de la famille de Sartre en fait partie à mes yeux. Et puis, il y a des chefs-d'œuvre de philosophie. Ça m'est arrivé une fois ou deux de voir des brouillons de philosophes. On s'aperçoit qu'ils sont aussi scrupuleux, aussi exigeants, aussi tatillons, aussi maniaque que le moindre poète, parce qu'ils attachent une importance démesurée au moindre mot, à la moindre tournure de phrase. Je dis ça en pensant au brouillon de Merleau-Ponty, que j'ai vu, qui était lui aussi un très très grand écrivain. C'est sidérant d'observer la manière dont naissent ces textes. Et Bergson est de cette famille-là, pour moi, indiscutablement.
Quel est le propre de ce genre littéraire philosophique dont vous parlez par rapport aux autres genres littéraires ?
Je pense que ça tient en un mot, mais qu'il faut immédiatement préciser, qui est le mot abstraction. C'est-à-dire que les philosophes, ils ont sans doute ce soubassement, cette attention à l'esthétique, à la beauté, mais en même temps, ils veulent produire, et ils produisent, un discours qui est le plus universellement, c'est difficile, mais disons le plus généralement accessible par le plus grand nombre. Voilà. Donc, une pensée abstraite. Quand on emploie ce mot, abstraite, en général, on l'emploie d'une façon absolue, comme on dit l'art abstrait ou une pensée abstraite. Ce qui est tout à fait possible, c'est un des usages du mot. Mais je précise souvent que abstrait, ça peut être autre chose. Au lieu d'être un adjectif, ça peut, je vais faire un tout petit peu de prof de grammaire, ça peut être aussi le participe passé du verbe abstraire. C'est un participe passé. Et auquel cas, ce n'est pas nécessairement un mot qu'on emploie d'une façon absolue, mais qu'on emploie avec un complément. C'est abstrait de quelque chose. On l'abstrait, donc on va abstraire un discours, une pensée de la circonstance. On va l'abstraire de sa propre personne. On va l'abstraire de ses convictions religieuses, de ses convictions politiques, peut-être même de ses convictions morales. On va produire un discours qui est le plus possible abstrait de ce qui servirait à le relativiser, voilà, de façon qu'on le reçoive le plus universellement possible. Ce qui me fait dire des fois, sans aucune ironie, que la philosophie c'est peut-être plus difficile à écrire encore que la poésie ou pour le roman, parce que la poésie, le roman peuvent donner libre cours à toutes les suggestions de leur imagination. Le philosophe, averti, sait que c'est avec ce matériau qu'il travaille, mais il doit absolument s'en abstraire. À mon avis, il n'y réussit pas toujours, Dieu merci, d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est ce qui fait son propre, à mon
avis.
C'est
son effort.
C'est son effort, et c'est un effort qui ne peut s'accomplir que dans les conditions qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire dans le souci du beau, de l'indistinct, du vague, et par effort d'approximation.
Et comment pourrait-on définir le style d'écriture de Bergson ? Vous dites à un moment donné dans votre livre qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un flux continu comme sa pensée, mais qu'en réalité, il se rapproche plutôt des vagues successives.
Oui. En réalité, quand je dis ça, je ne fais que le paraphraser. Il y a un endroit assez étonnant cette fameuse conférence que j'évoquais tout à l'heure là, à Bologne, en 1911, dans laquelle il emploie un mot qui est très très peu philosophique. Il parle des zigzags de la pensée. Les zigzags, et il veut dire simplement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on avance, et puis à un certain moment, on s'aperçoit que bon, on est arrivé là où on pouvait arriver, mais on repart d'un autre point, on repart, cette fois peut-être un peu plus loin. Pascal avait déjà repéré ça. C'est comparable au mouvement de la mer, qui monte, qui descend, qui remonte un peu plus loin. C'est comme ça que les marées montent, que les marées descendent, en donnant l'impression qu'elles font sans arrêt des va-et-vient. Mais ce va-et-vient, il n'est pas un va-et-vient statique, si j'ose dire. Il est un va-et-vient qui progresse, que ce soit dans la montée ou dans la descente. Alors, je pense que Bergson, quand il parle de ça, il parle du mouvement très général des œuvres, c'est-à-dire en prenant la carrière d'un écrivain ou d'un philosophe, mais il dit qu'un philosophe, c'est un écrivain, c'est pas moi, ça, du coup, qui le dit, c'est lui. Il envisage donc cette affaire de zigzag, de flux et de reflux. Je crois qu'il emploie le mot flux et reflux aussi, mais zigzag, j'en suis sûr. Il l'emploie en pensant à l'ensemble d'une carrière. Mais en réalité, dans ces textes, il fait ça sans arrêt. C'est-à-dire que pour progresser dans sa pensée, il est obligé d'explorer une piste, il l'explore le plus qu'il peut, et puis au moment où il s'aperçoit qu'il est arrivé au plus loin en partant de ce point de départ précis, il faut qu'il en choisisse un autre. Et donc il refait dans le même texte. L'exemple le plus frappant qu'on trouverait de ça, c'est dans l'introduction à la métaphysique, qui est un article qui n'est pas très long, mais qui est évidemment fondamental là, pour les philosophes aussi, dans lequel il s'en prend pour donner un exemple à la définition de ce qui, dans la tradition philosophique, s'appelle la conscience, le problème de la conscience. Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle est multiple? Et donc, il est amené à essayer des définitions, mais je ne sais pas, il y en a peut-être 7, 8 à la suite. Et il les reprend, il les corrige, il dit oui, bon, là, il faut s'arrêter parce que ce n'est pas exactement ça. On pourrait plutôt dire que c'est ça. Et il se reprend de cette façon sans arrêt. Voilà. Et quand il parle de l'histoire de la philosophie, donc toute la dernière partie de son grand livre, là, qui s'appelle « L'évolution créatrice », il montre qu'en fait, l'histoire de la philosophie, elle progresse aussi de cette façon. C'est-à-dire, on avance, mais finalement, il y a des embranchements qu'on a laissés de côté et qu'il faut réenvisager. On repart d'un autre endroit. Et puis finalement, c'est bien, on avance. Et on s'aperçoit que là encore, un embranchement se présente. Il ressemble à celui d'autrefois, mais ce n'est pas exactement le même. Et que la philosophie, comme la création, avance de cette façon. Voilà.
Alors, nous avons bien compris que cette réflexion sur le langage est vraiment la matrice, irrigue toute l'œuvre de Bergson, qu'il cherche lui-même à la mettre en œuvre en fabriquant son propre langage. Est-ce que pour lui, chaque philosophe devrait créer son appareil de langage ?
C'est le cas. Je pense vraiment que c'est le cas. Et je pense que Bergson, il était lui aussi très attentif à ça. Et je pense que quand il appréhende un philosophe, il donne l'exemple de Descartes, par exemple, dans une des conférences du tout début du XXe. Il explique comment, pour entrer dans la pensée de Descartes, il s'agit d'épouser le mouvement de sa phrase. Donc, chacun a sa phrase, chacun a son appareil verbal, et c'est à partir de là seulement qu'il va réussir à commencer à s'approcher. Voilà. Et donc, Bergson, oui, il est très attentif à ça, et je pense qu'il dirait, là je le fais parler, je ne le cite pas, mais je pense qu'il dirait que l'enseignement de la philosophie, à quoi il était très très attaché et très attentif aussi, devrait commencer par là, c'est-à-dire par la considération de l'appareil formel, verbal, poétique, dans le sens de théorie de la création, que ces philosophes ont mis en œuvre. Voilà. Et il le fait régulièrement lui-même. Et ça devait être un enseignant absolument merveilleux, je pense. Moi, ce que je regrette, c'est que quand on lit les commentaires sur Bergson ou qu'on lit les éditions, il y a une très très bonne édition, vraiment, je n'en dis pas de mal, des œuvres complètes, nouvelles, qui est conduite sous la direction de Frédéric Worms au PUF. Dans ces éditions ou dans ces commentaires, tout ce qui a trait justement à cette attention de Bergson à la forme, au langage et à la connexion très étroite que cela entretient avec la pensée, ce n'est pas noté. Voilà. Ce n'est pas noté. La première phrase du premier essai, du premier livre, l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui est donc une déclaration, pas de guerre, mais une déclaration de méfiance vis-à-vis du langage. Il dit qu'on est la dupe du langage, il dit qu'on est les otages du langage, c'est quand même assez fort. Il le dit ça dans les toute première ligne. Qu'est-ce que font les commentateurs ? Ils partent immédiatement sur le concept d'espace, parce qu'effectivement, Bergson aussi part de ça. Il dit, voilà, on parle, on s'exprime par des mots, ça veut dire qu'on est dans l'espace, et donc on n'arrivera pas à appréhender les objets qui n'occupent point d'espace. Ça, c'est une citation de lui. Alors, les philosophes, plutôt que de se tourner ou les commentateurs, disons, mais en général ce sont des philosophes, plutôt que de se tourner vers cette remise en cause du langage qui nous fait dire des choses qui ne sont pas compatibles avec l'objet qu'on s'est donné, ils se tournent vers la notion d'espace, où là ils sont beaucoup plus à l'aise, parce que c'est un concept philosophique, on a ses points de repère, et Bergson effectivement tient sur l'espace un discours qui n'est pas celui de ses prédécesseurs, et qui a pesé lourd, c'est vrai aussi. Donc je regrette à la fois pour Bergson, parce que du coup, on est privé si on ne fait pas attention à cette dimension de quelque chose qui est, me semble-t-il, vraiment son apport. Et puis surtout, c'est dommage pour le reste des philosophes, parce que lui donne quelques exemples d'autres philosophes que lui, dont la pensée diffère grandement de l'intuition qui a donné naissance à leur œuvre. Berkeley, Spinoza, Kant, Descartes, etc. Il en donne beaucoup. Là, je donne ceux qui sont cités dans la fameuse conférence de Bologne. Mais évidemment, quand on fréquente un peu ce que je fais depuis peut-être 25 ou 30 ans, les textes de la philosophie dans son enseignement, on est frappé par l'importance que le moindre mot, la moindre tournure, j'allais dire la moindre respiration, mais ça, c'est Bergson qui parle du souffle et de la respiration du texte philosophique. On est frappé par l'importance que ça a, et pas seulement pour la beauté, mais pour la pensée même. Voilà.
Comment transmettre cela dans l'enseignement aujourd'hui ?
J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça, je ne sais pas. Je pense que Il faut tomber sur des individualités, des professeurs de philosophie. Moi, j'en connais quand même. J'ai des amis philosophes qui sont vraiment philosophes et très attentifs à la question du langage. J'appartiens à un groupe de recherche dont c'est le pain quotidien. Mais ce sont des gens qui sont des exceptions, en réalité. Et je pense que les philosophes, ils tiennent beaucoup, et c'est bien en même temps, ils tiennent beaucoup à l'exercice de la pensée, à apprendre aux élèves et aux étudiants à exercer eux-mêmes cette capacité, à lui donner un cours qui soit un peu raisonné. Mais je pense que non seulement il ne perdrait pas, mais il gagnerait beaucoup à intégrer dans cette œuvre qu'ils font, qui est indispensable de transmission, à intégrer la dimension verbale. Parce que, d'abord, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Alors ça, je l'ai constaté beaucoup de fois. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui fait ses armes en philosophie, parce qu'en fait, les professeurs de terminale, ils ont en face d'eux des élèves qui n'ont jamais fait de philosophie. Et donc, c'est plus facile, et ça permet, paradoxalement, parfois, d'aller plus loin. C'est dangereux. Je veux dire, en fait, ça tient en un mot, le danger. C'est l'équivocité. Le philosophe, d'une façon générale, depuis Aristote, c'est Derrida qui cite cette phrase d'Aristote, s'efforce de produire un discours qui est non seulement, comme on disait tout à l'heure, le plus universel possible, mais qui soit univoque, qu'on ne puisse pas tirer dans tous les sens. Voilà. C'est ce que Platon redoutait avec l'écriture. Il disait, oh là là, si on se met à l'écrire, chacun va donner son interprétation, ça sera épouvantable, on en sortira, ce sera la trahison permanente. Donc, l'équivocité, c'est l'ennemi de la philosophie. Or, c'est certain que si on intègre la dimension littéraire du texte philosophique, si on essaye de lui donner un statut, on ouvre la porte à cette possibilité. À mon avis, c'est la richesse du texte philosophique et les expériences d'enseignants que j'ai en ce domaine le montrent. Donc je pense qu'il faudrait une révolution vraiment profonde des esprits pour qu'on puisse changer ça. Rêvons, peut-être que ça viendra.
Eh bien, rêvons, effectivement. Un grand merci, Bruno Clément. Je rappelle le titre de votre livre, Henri Bergson, prix Nobel de littérature. Et c'est aux éditions Verdier. À bientôt, merci.
Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Thank you.